Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Quel est le but de la vie? Comprenez-vous le but de votre vie tel qu'il a été enseigné par Dieu? Saisissez-vous ce qu'est la véritable Église bâtie par le Christ et le rôle qu'elle doit accomplir? À quoi sert de discuter des petites choses de la vie si nous ne comprenons pas le but de la vie, ni la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et la femme? La clé de ce mystère se résume en un mot, le caractère. Lorsque tout sera accompli, le résultat ultime de ce que nous aurons fait dans cette vie ne sera pas mesuré en argent, en propriété, en héritage ou en ce que nous aurions pu instituer, mais ce sera mesuré par le caractère que nous aurons acquis. Et ceci nous amène à la question, pourquoi le caractère est-il si important? Parce que son perfectionnement est le but de la vie humaine. Le caractère de Dieu est parfait. Voilà pourquoi, à la fin de son sermon sur la montagne, Jésus nous dit que nous devons devenir parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Cette perfection, l'esprit humain ne peut la sonder. Mais nous devons y faire face par la foi. Et la foi est aussi une forme de caractère. Nous devons nous rappeler que les êtres qui donnèrent naissance à l'univers par une série d'actes créatifs sont parfaits. Dieu existait avant que tout ce qui existait dans l'univers ne soit. Il est parfait. Il est parfait en caractère. Et ce serait un problème inimaginable si le Créateur n'était pas parfait. Nous devons faire face à l'évidence fondamentale des Écritures qui, du commencement à la fin, dévoile qu'avant qu'il n'existe un univers, il y avait deux êtres que nous définissons comme Dieu, deux créateurs se situant au-dessus de tout, même au-dessus de la matière. Ces êtres sont parfaits en esprit, en puissance, en caractère. Au commencement, il y avait la parole. Il y avait aussi celui qui est le Très-Haut et qui est appelé maintenant Père. Voilà les êtres que nous appelons Dieu et qui étaient déjà là pour le commencement. L'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Selon le premier verset de la Genèse, nous trouvons le commencement de l'univers naturel, physique, créé par ces deux êtres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceci se passe au moment où la matière est créée par ces deux divinités, par ces Elohim, selon le mot original hébreu. Ces deux divinités sont déjà présentes. Dieu est déjà là. Avant que le Christ ne naisse, il n'y avait aucune relation filiale entre ces deux Elohim. Il y avait le royaume de Dieu. Ensuite, il y eut la création des anges, et enfin, les royaumes physiques de la vie humaine, de la vie animale, de la vie botanique, etc. Lorsque Dieu posa les fondations de la terre, la Bible révèle que les anges existaient déjà. L'Éternel demanda à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Ce verset mérite quelques explications. Différents passages bibliques démontrent que les fils de Dieu, dont il est question ici, sont les anges. Le livre de Job déclare « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Le livre des psaumes ajoute « Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» Il est toujours question ici des anges qui sont dans les cieux. Enfin, dans le récit des trois amis de Daniel, qui sont jetés dans la fournaise ardente, il est écrit « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. » Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Quant à la fondation de la terre, il s'agit de la création de notre planète, du moment où elle a été posée sur ses bases, établie sur ses fondements. Et ceci est tiré de l'hébreu « yassat ». Nous devons faire ici la différence avec le mot grec « katabole » qui, lorsqu'il est associé au mot « monde » ou « cosmos » en grec, comme nous le découvrons dans plusieurs livres du Nouveau Testament, signifie « la ruine du monde », sa destruction violente, comme ce fut le cas après la révolte des anges, lorsque la terre devint informe et vide. C'est alors que Dieu conçut le projet qui est décrit dans Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 8. Dans le premier verset de la Genèse, nous trouvons la fondation du monde, ainsi que dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 10, où il est écrit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre ». Le mot « fondé » est traduit du grec « temelio », ayant le sens d'établir, diriger les bases de la terre, et c'est ce qui s'est passé pour l'univers entier dans le premier verset de la Genèse. Lorsque Dieu posa les fondations de la terre, les anges étaient déjà créés. Dieu leur apprit ses lois, les habitua à sa présence, à sa gloire, à son trône dans les cieux. Les anges ont été instruits dans la vérité divine, et ne perdons pas de vue que la parole de Dieu est la vérité. Ils connaissent le caractère de Dieu. Toutefois, les anges devaient prouver leur caractère en décidant eux-mêmes s'ils poursuivraient dans cette voie, dans cette façon de vivre divine telle qu'elle leur avait été enseignée. Jusqu'au moment de la création de l'univers physique, les anges furent soumis. Ils étaient intègres dans leur voie et nous avons vu dans le livre de Job à quel point ils avaient été émerveillés par la création de la terre, puisqu'ils poussèrent des cris de joie. Ayant été éduqués au pied du trône de Dieu, Eilel, que l'on traduit par Lucifer en latin, et dont le nom signifie « astre brillant » ou « celui qui amène la lumière », Lucifer avait reçu la responsabilité d'administrer le gouvernement de Dieu sur cette terre. N'oublions pas que Lucifer était l'un des trois grands qui se tenait près du trône de Dieu, et il devait gérer ce gouvernement sur la forme de vie qui devait probablement exister sur notre planète à cette époque-là. Ces êtres spirituels, qui avaient conscience de la grande bonté de Dieu, qui avaient vu le résultat de son immense pouvoir créatif, se trouvaient responsables du gouvernement de Dieu sur cette planète. S'ils s'étaient montrés dignes de leur mission, le gouvernement divin se serait étendu, pas à pas, au reste de l'univers. Mais les choses prirent une autre direction, parce que cet astre brillant, cet archange, pensa que la voie divine n'était qu'une possibilité, et qu'il devait bien y en avoir d'autres. Et, pendant toute une période de temps, cette idée fit son chemin, et gagna un tiers des anges qui, eux aussi, en arrivèrent à la même conclusion. Ils avaient expérimenté la bonté de Dieu, mais ils se persuadèrent que leurs idées, leurs pensées étaient meilleures, et qu'après tout, Dieu n'était pas si bon que cela. Celui qui, selon son nom, apportait la lumière, amenait désormais les ténèbres dans l'esprit d'un tiers des anges. Il fut ensuite connu sous le nom de Satan l'adversaire. C'est lui qui conçut l'idée de la compétition, de la lutte pour le pouvoir. Elle faisait partie de son raisonnement. Il croyait qu'au lieu de coopérer, au lieu de faire preuve d'amour, de cet amour qui accomplit la loi divine, il devait exister un autre moyen, une autre méthode qui consiste à concurrencer et à foncer, sans se soucier des autres. Satan s'est persuadé qu'au lieu de dire la vérité, on pouvait mieux s'en sortir avec le mensonge. En s'adressant aux Juifs de son époque, Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » En disant « il a été meurtrier dès le commencement, cela signifie que l'esprit de compétition qu'il institua dériva d'une attitude de haine ou de meurtre, et en fin de compte, cela se solda par ce qui n'avait plus rien à voir avec la vérité. Il n'y avait plus de vérité en lui, il mentait, il parlait conformément à sa propre nature, car il était devenu un menteur et le père du mensonge. Les anges, y compris Satan, auraient dû essayer de déterminer la nature de leur esprit. La nature de l'esprit étant pour les anges ce que la nature humaine est pour l'homme. Rappelons-nous que les êtres humains ont une nature, et notre nature humaine est moulée par la société dans laquelle nous vivons. Elle est moulée par nos parents, par notre génération, par nos écoles, et aussi par les idées que le diable fait entrer dans notre esprit sous forme d'humeur et d'attitude, et cela sans que l'être humain ne s'en rende vraiment compte. Les anges, eux, avaient la responsabilité de former leur propre nature, une nature de l'esprit conforme à la nature de Dieu, ou une nature qui serait alors à l'opposé de la nature divine. Longtemps avant que les 10 commandements ne soient rappelés du mont Sinaï, déjà cet être spirituel, Satan, est appelé un meurtrier car il l'était depuis le commencement. Satan était un menteur, et ses idées se concrétisèrent après qu'il eut reçu la mission d'administrer le gouvernement de Dieu sur la terre. Un des 10 commandements dit « Tu ne tueras point ». Un autre dit « Tu ne porteras point de faux témoignages », autrement dit « Tu ne mentiras pas ». Nous pouvons constater que les commandements définissent le caractère de Dieu et la transgression, la rébellion à ces commandements définit la nature que certains anges ont introduit en eux. Les êtres spirituels devaient forger en eux le caractère de Dieu ou une voix s'opposant à Dieu. Par ses idées, Satan séduisit un tiers des anges. Mais le 12e chapitre de l'Apocalypse confirme qu'il séduit toute la terre. C'est un séducteur, un menteur et un meurtrier. La vérité n'existe pas en lui. L'apôtre Jean a écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et il ajoute « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Ce verset que nous venons de lire s'applique aux démons, mais aussi à tout homme qui, affirmant être chrétien, disciple du Christ, rejette les commandements et les lois de Dieu. Satan peut prétendre connaître Dieu, car il a vécu en sa présence, mais il sous-estimait la bonté de Dieu, par conséquent, il ne connaissait pas réellement Dieu. En fait, Satan aurait pu et dû continuer à croire que Dieu est aussi bon qu'il le leur avait dit, avant que la terre ne soit créée. Satan est meurtrier et menteur dès le commencement. Il a transgressé les commandements, il a péché, et le péché est la transgression de la loi. Tous ceux qui pêchent sont coupables d'avoir rejeté la loi, de l'avoir transgressée. Jésus nous dit que Satan parle selon sa propre nature. Nous pouvons donc en conclure que les commandements reflètent la nature de Dieu, son caractère, et la transgression des commandements est le reflet de la nature du caractère du diable. Le résultat n'est pas seulement une question de gouvernement, pris dans le sens très large par rapport à l'univers. C'est une question de caractère. Ne perdons pas cela de vue, car le caractère a une très grande importance. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.